VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisco, 13h à Dakar, 15h à Kigali, bienvenue à notre journal. Contestation en Algérie, le Conseil constitutionnel algérien est actuellement réuni à Alger pour constater, conformément à la Constitution, la vacance de la présidence de la République après la démission la veille du président Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'agence de presse officielle APS. Une fois constaté, le Conseil constitutionnel doit transmettre un acte de vacance définitive au Parlement, selon la Constitution. C'est le président du Conseil de la Nation, la Chambre du Parlement, Abdelkader Ben Salah, 77 ans, qui est chargé par la Constitution d'assurer l'intérim pendant 3 mois. Cible depuis le 22 février d'une contestation inédite, le président sortant Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, dont 20 ans à la tête de l'Algérie, a remis sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel Tayeb Belaïz mardi soir, en présence d'Abdelkader Ben Salah. Ce dernier a désormais 90 jours maximum pour organiser une élection présidentielle à 2 tours et remettre le pouvoir au nouveau chef de l'État élu lors de ce scrutin auquel, en tant que président par intérim, il ne peut pas se présenter. La lutte contre les djihadistes au Sahel. Un médecin militaire français a été tué mardi au Mali à la suite du déclenchement d'un engin explosif improvisé au passage de son véhicule blindé lors d'une opération contre les groupes armés terroristes. C'est ce qu'ont annoncé la présidence française et l'état-major des armées. Le capitaine Marc Lécuras était sur le terrain dans la région du Gourma, frontalière du Burkina Faso, a précisé le porte-parole de l'état-major des armées françaises, le colonel Patrick Steger. Afrique de l'Ouest toujours, plus d'un milliard de dollars de fonds publics ont été détournés ou dilapidés en 3 ans au Sierra Leone, sous l'administration de l'ancien président Ernest Bai Koroma, qui a dirigé le pays de septembre 2007 à avril 2018. C'est ce que révèle un rapport d'audit présenté mardi par le ministre sierra-léonais des Finances. Plus de détails avec John Lyndon.
Selon le ministre des Finances, Jacob Yuzu Safa, s'exprimant lors d'une conférence de presse très suivie, le rapport dévoile des graves violations dans l'attribution des marchés publics dans les secteurs de l'énergie, des routes, des pensions et des télécoms pour un montant de 1 036 milliards de dollars. Plus de 500 millions de dollars n'apparaissent également pas dans la comptabilité de contrats attribués par l'administration des routes, relève notamment l'étude portant sur la période 2015-2018 et réalisée par 50 experts issus de Sierra Leone, de Tanzanie, du Kenya et du Ghana. Une étude financée par l'agence de coopération britannique UKAID. Interrogées, plusieurs personnalités citées dans le rapport nient toute malversation, mais se refusent à tout commentaire. Dans un résumé assorti de recommandations, les experts dressent un long catalogue de contrats surévalués, de prêts ou de dons non justifiés, d'absence de stratégie pour recouvrer les loyers ou les amendes et de non-respect de la législation et des règles de comptabilité par les administrations et sociétés publiques auditées. Les contrevenants ont jusqu'à fin juin 2019 pour rembourser sous peine de poursuite judiciaire. Les sommes détournées représentent 3 fois le budget des soins de santé et 5 fois celui de l'éducation, selon Aboubakar Camara, responsable d'une ONG locale.
Élection aux Comores, la Cour suprême comorienne a validé mardi la réélection du chef de l'État sortant Azali Assoumani lors du premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars, dont les résultats ont été rejetés d'emblée par l'opposition, qui a dénoncé des fraudes massives. Les résultats définitifs, approuvés par la Cour, créditent le chef de l'État au pouvoir depuis 2016 de 59,09% des suffrages, loin devant le candidat du parti du roi, l'avocat Mahamudu Ahamada, 15,72%, et Mouini Baraka Saïd Soli, 5,53%. Les 12 rivaux d'Azali Assoumani au premier tour refusent de reconnaître sa victoire et exigent l'organisation d'un nouveau scrutin. Commémoration du génocide de 1994 au Rwanda, le président français Emmanuel Macron sera le grand absent dimanche aux cérémonies à Kigali pour le 25e anniversaire du génocide rwandais. La réconciliation entre la France et le Rwanda, qui s'esquissait, devra donc attendre. Prisonnière d'une mémoire toujours divisée sur le rôle de la France durant cette page très sombre. Invité officiellement par son homologue rwandais Paul Kagame, Emmanuel Macron a finalement décliné l'invitation en invoquant des problèmes d'agenda. Depuis 25 ans, Paul Kagame, qui a mis fin au génocide des Tutsis et des Hutus modérés en s'emparant de Kigali en juillet 1994, accuse la France de complicité avec le régime Hutu qui était alors au pouvoir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Poursuite de notre série sur la commémoration du 25e anniversaire du génocide de 1994 au Rwanda, notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, est allé à la rencontre des jeunes qui sont nés bien après les massacres pour tenter de savoir quelle relation ces jeunes Rwandais ont avec le passé tragique de leur pays. Écoutons le témoignage de Nishimwe Sabrina, une Rwandaise qui a tout juste 21 ans.
Je m'appelle Nishimwe Sabrina, je suis née en 1998, donc 4 ans après le génocide. J'ai 21 ans maintenant.
Comment est-ce que vous avez appris qu'il y a eu un génocide ici?
Bon, on a appris ça par différents médias, par nos parents, par les histoires que nos grands-parents ont racontées. Oui, c'est comme ça qu'on a appris ça, les histoires qui s'est faites. Rwanda en 1994.
Est-ce que pour vous c'est une relation de tristesse et un passé lointain? Quel rapport avez-vous avec le génocide?
Pas, il n'y a pas de grand chose, il n'y a pas un grand rapport. On n'était pas là, on est né après ça. Mais on a un rapport parce qu'on a des parents, on a des grands-parents qui ont vu ça. Il y a peut-être des relations qui sont des victimes qui sont mortes dans le génocide. Donc il n'y a pas grand chose personnellement, mais ça nous affecte indirectement. Parce qu'on a nos grands-parents et nos parents qui ont vu ça.
Comment est-ce que vous vivez actuellement au Rwanda? Comment voyez-vous l'avenir?
L'avenir est très rassuré. On voit que notre pays avance peu à peu. Il y a des jeunes qui contribuent à notre développement. Le Rwanda, il développe très bien maintenant. Alors, personnellement, on le vit très bien. On a appris du passé. C'était vraiment mal. Et on essaye de reconstruire notre pays.
Est-ce que vous avez des relations ethniques avec d'autres Rwandais? Parce qu'avant le génocide, il y avait beaucoup d'importance à ce que les gens disent Hutu ou bien Tutsi, ce qui a fait beaucoup de mal à ce pays. Aujourd'hui, en tant que jeune, quelle est la relation que vous avez avec les autres Rwandais?
Notre relation est très bien. On le vit très bien. Oui, il y a des gens qui sont toujours entre... Comme les grands-parents, on a des grands-tantes qui disent non, tu ne dois pas te marier avec un Hutu parce qu'ils nous offrent ça et ça. Mais ça se diminue les années et les années. Les gens comprennent qu'on est tous des Rwandais. Il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi. Donc oui, on le vit bien maintenant, ça s'améliore.
Est-ce que demain, si vous êtes Tutsi, vous pouvez vous marier avec un Hutu ou inversement?
Oui, on le peut, oui. C'était vraiment pas très bien avant parce que les parents s'opposaient. Oh, c'est le Hutu, tu peux pas te marier avec lui. Mais maintenant... Il sait, on est tous des Rwandais. On essaie de leur comprendre que ce n'est pas basé sur les Hutus et les Tutsis. On est tous des Rwandais maintenant.
Vous êtes l'avenir du Rwanda. Vous êtes la jeunesse du Rwanda. Est-ce que vous pensez que ce pays va vraiment s'en sortir et que le génocide soit un lointain souvenir, loin derrière vous?
Ça fait 25 ans maintenant. Donc il va se reconstruire. Ça va s'oublier. C'est oublié maintenant, même s'il y a peu de gens qui n'ont pas oublié ça. Mais c'est vraiment oublié et on avance très bien.
Un témoignage sur le génocide rwandais recueilli à Kigali par Idriss Fall, notre envoyé spécial au Rwanda. Et pour terminer, l'actualité aux États-Unis, le président Donald Trump a mis une sourdine à ses critiques contre l'OTAN qui fête cette semaine ses 70 ans à Washington. Morgan Guiriec.
Des progrès formidables ont été réalisés et l'OTAN est beaucoup plus forte, a lancé le président des États-Unis devant la presse à la Maison-Blanche. Les gens payent et je suis très heureux, a-t-il ajouté en recevant le secrétaire général de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, Jens Stoltenberg, au bureau ovale. Des déclarations qui tranchent avec le ton employé au cours des derniers mois. Donald Trump réclamait notamment un meilleur partage du fardeau pour que les pays européens contribuent davantage à la défense commune, au lieu, disait-il, de vivre au crochet des faramineuses dépenses militaires américaines. Donald Trump avait aussi mis en cause l'utilité de l'OTAN et le bien fondé de l'article 5 du traité prévoyant qu'en cas d'attaque contre un pays membre, tous les autres volent à son secours. Il insiste surtout pour que chaque gouvernement porte son effort militaire à 2% de son produit intérieur brut en 2024, au plus tard, conformément à une règle fixée il y a 5 ans. Première visée, l'Allemagne, qui est encore très loin du but avec 1,5% prévu en 2024.
Merci de votre attention.